Alors, les réseaux sociaux, une invention du 21e siècle, hein, et ça permet de mettre sa vie en ligne, comme on dit. Ceux qui le veulent, hein, ils peuvent parler d'eux, se montrer, raconter leur histoire. Et c'est visible par le monde entier, n'importe qui peut suivre ça. Alors bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on met dans les réseaux sociaux, dit-on, avec le plus grand soin. Quand on est chrétien et qu'on connaît un petit peu la parole de Dieu, on sait que ben, un jour, il y aura, notre vie sera mise en ligne, du moins, pas comme on le connaît maintenant, mais tout sera, tout ce qui nous concerne sera révélé, notre vie secrète sera exposée le jour du jugement. Et ça, c'est quelque chose qui est à venir et qui nous permet aujourd'hui de faire attention, hein, si on a cette pensée-là, qu'un jour, ben, tout ce qui est secret, qu'on cherche de cacher, de toute façon, ce sera découvert, à agir avec la crainte de Dieu. Dieu, cependant, a mis en ligne quelques vies dans la Bible, quelques portraits, quelques personnages qui l'ont publié à tout le monde, et le monde entier connaît leur histoire. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, a dit Paul aux Corinthiens, à 1 Corinthiens 10, 11. Elles ont été écrites pour notre instruction, écrit Paul, par rapport au récit de la Bible. Et donc, dans le récit de ce jour, on verra que Dieu demande à Laban de ne parler ni en mal, ni en bien de Jacob. Et je vais m'en tenir donc moi aussi à parler ni en mal, ni en bien de chaque personnage, d'essayer d'être le plus objectif possible. Et c'est vrai que... en étudiant tous ces passages, tous ces Isaac, Rebecca, Jacob. Bon, quand viendra la résurrection, que tous les enfants de Dieu seront dans le ciel, justifiés par la foi en Jésus, eh bien, peut-être je me trouverai en face d'Isaac ou de Rebecca qui me diront « Mais comment t'as parlé de moi ?» Et donc, voilà, même envers... ceux qui ne sont plus là, il faut parler de façon respectueuse. En arrière-plan de ce récit, il y a Isaac et Rebecca. Hein, je vous avais parlé d'eux comme le couple de référence, parce qu'on les a vus, ils se sont laissés conduire dans leur mariage. Et puis c'est un mariage qui a tenu bon. Jusqu'à la fin, ils sont restés deux. Et ils n'ont pas eu recours aux mères porteuses, quand ils avaient des problèmes avec, pour avoir des enfants, ils sont vraiment confiés en Dieu. Dieu leur a répondu. Et ce n'est pas pour autant qu'ils avaient pas, qu'ils étaient parfaits, un couple parfait. On voit que dans la fin de leur vie, il y a des touches qui sont moins belles qu'au début. Mais bon, c'est quand même un couple qu'il faut avoir en arrière-plan pour la suite du récit. L'histoire de Jacob est différente de celle de son père. Et si on a un mariage de référence, c'est dans l'esprit de ce mariage-là, mais ce n'est pas dans le déroulement des événements. Chaque histoire, chaque vie est différente. Et là, on va bien le voir avec le texte qui va suivre. On va parler de polygamie dans ce texte. Et la Bible ne nous apprend pas la polygamie. Le premier polygame, c'était le mec... hein, c'était un assassin, un descendant de Caïn. Ce n'était pas une personne fréquentable. Et c'est lui le premier polygame. Et la polygamie n'a jamais été présentée comme quelque chose de positif dans la parole de Dieu. L'histoire de Jacob montre qu'avec la meilleure volonté, un homme polygame a toujours une préférée parmi ses épouses qui sont qualifiées de légitimes. Et je... moi, personnellement, j'étais un petit peu en Afrique et j'avais un ami qui m'a expliqué que... il m'a expliqué là-bas que tous les polygames ont il y a une femme qui est leur femme. Et c'est comme ça. C'est comme ça dans toutes les familles polygames. Et je veux bien le croire quand on voit ce récit. Alors, la polygamie, c'est plus que pour l'Afrique. Hein. Bon, soyons pas hypocrites. Ça existe aussi dans nos pays ici. Hein. On a de beaux exemples de polygames. Hein. Le président François Mitterrand, il avait une femme et il avait une maîtresse. Bon, on a aussi le roi d'Angleterre actuel, hein, qui a connu ce même problème. La Bible n'apprend pas la polygamie. Elle apprend par contre la souveraineté, la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est même très bon. Il nous bénit malgré nos fautes. À cause de son fils Jésus, on a appris tout cela. Il nous apprend à se confier en Dieu par la prière, par la foi, par le contentement. Isaac et Rebecca ont fait confiance en Dieu pour leur mariage. Ils n'ont pas forcé la main de Dieu pour avoir un enfant. Ils ont prié, ils ont été exaucés. Et ça s'est produit qu'une fois. Et ils ont eu, Rebecca n'a eu qu'une seule grossesse. En arrière-plan, Isaac et Rebecca. Une histoire qu'on va voir qui n'est pas dans la même culture que la nôtre. Hein, on va voir le recours à des servantes pour avoir des enfants. Ça, c'était à l'époque. Les dots dans le mariage. Pour comprendre ce que c'est que la dot, il faut voir là aussi l'histoire de d'Isaac et de Rebecca. Le serviteur est venu et il a fait des cadeaux à Rebecca. Il a fait des cadeaux également aux parents, à la famille, à la mère et aux frères de Rebecca. Et ils ont laissé leur fille partir. Et donc la dot, c'est dans ce sens-là de rassurer la famille comme quoi le prétendant va pouvoir subvenir aux besoins de leur fille. Et également, cela montre que ben voilà, cette fille, elle a beaucoup de valeur pour nous, qui va venir habiter chez nous. Donc c'est dans ce sens-là, et non pas le sens d'une tractation commerciale. C'est un petit peu ce qu'on va voir avec la banque, hélas. Hein. On va voir l'histoire. Alors, on va faire cette lecture. On va pouvoir tous suivre. J'ai les images. Alors, je vais essayer de faire suivre les images pour les enfants. Jacob se mit en marche et gagna un long chemin donc qui le séparait et gagna la région des nomades à l'est, tout en haut à Aram. Il regarda, il y avait un puits dans les champs. Donc, c'est un très grand voyage qu'il a entrepris. Il y avait un puits et à côté du puits, trois troupeaux de brebis. Voilà les troupeaux de brebis. C'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était très grande. La voie ici. Tous les troupeaux se rassemblaient là et on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. Et on faisait boire les troupeaux et on remettait la pierre en place ensuite. Jacob demanda au berger.
Mes frères, d'où êtes-vous?
Nous sommes de Charan.
Connaissez-vous Laban, le petit frère de Nacor?
Nous le connaissons.
Est-il en bonne santé?
Il est en bonne santé. Et voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau.
Il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter.
Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, il roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et il fit voir le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Et dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit, l'embrassa tendrement. Puis, il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban, et Laban lui dit, « C'est certain, tu as bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Jacob habita un mois chez Laban. Et puis ce dernier lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait deux filles. L'une s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle, à tout point de vue. Jacob aimait Rachel et dit,
je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette.
Laban dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Et lui donna pour femme sa, il lui donna pour femme sa servante. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Il lui parut comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban,
donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle.
Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain, voilà que c'était Léa. Et Jacob dit alors à Laban,
qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé?
Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Et c'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa. Et il termina la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna sa femme, pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel, et Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préféra même à Léa. Et il fit encore chez Laban, il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel dit que Léa n'était pas aimée, et elle lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben, car elle dit,
l'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera.
Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit,
l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci.
Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle lui dit,
cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils.
C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et elle mit un fils. Et elle dit,
cette fois, je célébrerai l'Éternel.
C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, puis elle cessa d'avoir des enfants. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Il dit à Jacob,
donne-moi des enfants ou je meurs.
La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit,
suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants?
Voici ma servante Bila. Aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils.
Elle lui donna pour femme sa servante Bila et Jacob eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. Et Rachel dit,
Dieu m'a rendu justice, il m'a même écouté et m'a accordé un fils.
C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit,
j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse.
Et elle l'appela Nephtali. Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit à son tour sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit,
quel bonheur!
Et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Et Léa dit,
que je suis heureuse, oui les femmes me diront heureuse.
Et elle l'appela Azer. Ruben sortit, le fils aîné donc, à l'époque de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à sa mère, Léa. Rachel dit alors à Léa.
Donne-moi, je t'en prie, des mandragores de ton fils.
Est-ce trop peu d'avoir pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils?
Eh bien, il couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils.
Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit:
c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils.
Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, elle tomba enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Léa dit:
Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari.
Elle l'appela Issachar. Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Elle dit:
Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai donné six fils.
Et elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit:
Dieu a enlevé ma honte.
Et elle l'appela Joseph en disant:
que l'Éternel maudit à notre fils.
Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban:
Jacob,
laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi.
Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux, dit Laban, j'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai.
Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté. Et l'Éternel t'a béni sur mes traces. Maintenant, quand pourrais-je travailler pour ma propre famille?
Que dois-je te donner?
Tu ne me donneras rien si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer. Je prendrai encore soin de ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau pour en retirer parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol.
Le jour même, Laban retira les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes les chèvres. Toutes celles où il y avait du blanc, tout ce qui était noir parmi les brebis, il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre Jacob et ses fils. Entre Jacob et lui, pardon. Quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers, de platanes. Il pela des bandes blanches, mettant le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans des auges, dans des abreuvoirs, en face des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant à boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés, marquetés. Jacob séparait les agneaux, il les mettait ensemble, ce qui était rayé, tout ce qui était noir dans le troupeau de là-bas. Et il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne remit pas au troupeau de là-bas. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait des branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne le faisait pas. De sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob entendit les propos de Laban. Il disait, Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père. Et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait pas la même attitude envers lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, retourne dans le pays de tes pères et au lieu de ta naissance, je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ, vers son troupeau. Il leur dit,
je vois le visage de votre père qui n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayés et tachetés et marquetés. L'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance.
Rachel et Léa lui répondirent,
avons-nous encore le pain et un héritage chez notre père?
Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent?
Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père nous appartient, à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit.
Jacob se leva donc et fit monter ses chevaux et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Padan Aram, et il se rendit vers son père Isaac, au pays de Canaan. Laban était parti tondre ses brebis. Et Rachel vola les téraphins de son père. De son côté, Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de son départ, et il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa l'Euphrate et se dirigea vers la région montagneuse de Galaad. 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui et le poursuivit durant 7 jours de marche et le rattrapa dans la région montagneuse de Galaad. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban, l'araméen, et il lui dit, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit un bien ou un mal. Laban rattrapa donc Jacob, alors que celui-ci avait planté sa tente dans la montagne. Laban planta aussi la sienne avec ses frères dans la région de montagneuse. Alors, Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'avertir? Je t'aurais laissé partir au milieu de la joie, des chants, au son des tambourins et des harpes. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Tu t'es comporté de façon stupide. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit bien, en bien ou en mal. Et maintenant que tu es parti, parce que tu languissais auprès du foyer de ton père, pourquoi m'as-tu volé mes dieux? Les téraphètes. Jacob répondit à Laban,
c'est que j'avais peur, je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Quant à celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, qu'il cesse de vivre devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le.
Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, dans celle de ses deux servantes, il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Et Rachel avait pris les téraphins et les avait mis sous le bas du chameau. Elle s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, ne trouva rien, et dit à son père. Rachel donc.
Mon Seigneur, ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposée.
Il chercha les téraphins et ne les trouva pas. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Il prit la parole et lui dit.
Quel est mon crime? Quel est mon péché? Pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé? Qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison? Dépose-le ici, devant nos parentés respectives, et qu'elle soit juge entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées, j'en ai payé le dédommagement. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait les yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles, 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mêmes vies. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement.
D'abord, répondit à Jacob, ces filles sont les miennes, ces enfants sont les miens, ce troupeau est le mien, tout ce que tu vois m'appartient. Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, pour leurs enfants, ceux qu'elles ont mis au monde? Viens maintenant, concluons une alliance, toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. Jacob prit une pierre et le dressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté.
Amassez des pierres.
Il prit des pierres et firent un tas. Ils mangèrent là sur le tas. Laban l'appela Jégar, Saad du tas, et Jacob l'appela Galeb. Laban dit, que ce tas serve aujourd'hui de témoignage entre toi et moi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galeb. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit, que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons perdus de vue, tous les deux. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Fais-y attention, c'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Voici cet tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. Il sera témoin que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction et que de ton côté, tu ne dépasseras pas ce tas et ce monument dans ma direction avec de mauvaises intentions. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor, c'est-à-dire le Dieu de leurs ancêtres, soit juge entre nous. Jacob prêta un serment au nom de celui que craignait son père Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita les membres de sa parenté à manger. Ils mangèrent, burent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Et donc, Jacob... Laban est rentré chez lui. Alors, rapidement, je voudrais juste faire des portraits de ces quatre personnages principaux. Le portrait de Jacob. Jacob, c'est le pêcheur en chemin vers Dieu. Moi, j'ai remarqué que c'était un homme qui était travailleur, Jacob. Il travaille dur, il assume ses responsabilités, il est... s'est bien occupé ce troupeau, il a travaillé pour sa famille. Mais c'est aussi un homme calculateur un peu, c'est un homme un peu trompeur. Il cherche toujours à être le plus malin. Mais avec Laban, là, il trouve son maître, celui qui trompe, qui avait l'habitude de tromper, va être lui-même trompé. C'est la pédagogie de Dieu pour lui. C'est un homme qui apprend de Dieu. Bon, on va la faire des branches que Jacob plaçait devant les brebis. Mais c'est Dieu qui lui révèle réellement ce qui s'est passé et pourquoi les brebis faisaient toutes des agneaux qui étaient achetés, qui étaient rayés, etc. et qui étaient pour lui. Et en Genèse 31-42, il constate que le Dieu de son père le protège. Et là, on voit déjà tout le chemin parcouru du temps où il trompait son père Isaac en se faisant passer pour son frère et en jurant par le Dieu de Isaac. Jacob est un pécheur en chemin vers Dieu. Et Léa, c'est l'épouse qui n'était pas aimée. C'est une femme perdante. Son père lui impose un mari. Sa sœur lui vole son mari. On a l'impression qu'elle n'était pas au courant de tout ce qui s'était passé là, que les dés étaient pipés pour elle. Et malgré les nombreux enfants qu'elle a donnés à Jacob, rien n'y fait. Jusqu'à la fin, elle n'est pas aimée. Et c'est une situation qui peut-être est très répandue de nos jours. Une femme perdante, une femme qui n'est pas aimée. Mais elle a gardé l'espoir quand même. Elle continue à être heureuse d'avoir des enfants et l'espoir de connaître un jour le bonheur conjugal. Moi, je trouvais que c'était une femme qui était gagnante aux yeux de Dieu, perdante à ses yeux, perdante aux yeux des hommes, mais gagnante aux yeux de Dieu. Parce que dans ses dernières paroles, Jacob mentionnera Léa et non Rachel. Et c'est Léa et non Rachel qui repose auprès d'Isaac dans le tombeau des patriarches. On apprend ça tout à fait à la fin de l'histoire. Léa, Jacob a prévu, ce sera Léa et Jacob qui vont reposer ensemble. Et c'est par Judas, le fils de Léa, que naîtra le Messie. Et Léa, donc celle qui n'était pas aimée, sera au final la grande gagnante. Alors, c'est vrai qu'on regarde le court terme, on n'a pas l'habitude de regarder vers l'éternité. Et puis, toutes les épouses qui ne sont pas aimées être consolées par l'histoire de Léa. Il y a le portrait de Rachel. Bon, Rachel, je l'ai qualifiée de l'imparfaite. Pourtant, elle semblait avoir tous les atouts. Elle était belle et Jacob s'était attaché à elle. C'était elle qui était la grande gagnante, semble-t-il. Mais pourtant, elle était imparfaite. C'était une femme stérile. La stérilité faisait qu'elle ne transmettait pas la vie et elle se révolter contre cela. « Donne-moi des enfants ou je meurs. » C'était quelque chose qui était un problème dans sa vie. Une femme stérile, une femme pécheresse également, c'est on retrouve ici un petit peu ce qu'on avait retrouvé chez Jacob, avec le vol des téraphins des dieux de son père. Trois commandements violés ou quatre même. Elle a fait un vol, elle a fait un faux témoignage, elle a menti, elle a déshonoré son père en le volant. Et puis, tu racontes un seul Dieu devant ma face, elle a volé des idoles faites de fabrications humaines. Donc quatre commandements, on la voit violés ici. C'est une femme. Cependant, je pense que c'est une femme que Dieu aime. Si on relit le verset de Genèse 29-31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Ensuite, 30-22-24, Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça et il l'a rendue féconde. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils et elle dit, Dieu a levé mon opprobre, elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute encore un fils. Et là, on saute encore plus loin. Le passage qu'on n'a pas lu, chapitre 35, versets 16 à 20, la fin de l'histoire pour Rachel. Partir de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha et elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains pas, tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oumi. Mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore de nos jours. À la lecture de ces passages, je comprends que si Dieu avait donné à Rachel la même fécondité qu'à Léa, ben Rachel serait sans doute morte prématurément. Elle n'avait pas la constitution pour donner naissance à beaucoup d'enfants comme sa sœur Léa. Dieu, il est très bon pour nous. Il ne comprend pas toutes les situations que nous vivons, mais lui, il sait. Il sait. Et Dieu lui a donné également Joseph, qui sera un type de Christ, celui qui par ses souffrances sauvera ses frères dans la suite de l'histoire. Je retiens que Dieu nous a créés comme il a jugé bon. Il a créé des différences, il a fait des dons variés. Sans doute un des secrets du bonheur, c'est de s'apprécier ou de s'accepter tel que l'on est, sachant que nous avons tout reçu de Dieu. Ce qui nous semble comme des plus et ce qui nous semble aussi comme des moins. Rachel, une femme que Dieu aime. Là-bas, lui, c'est le contre-exemple, hein, c'est la personne charnelle de l'histoire, un homme tricheur. Il a triché envers Jacob, il lui impose par ruse Léa, 7 années de travail de plus. Il a triché avec ses propres filles, il a profité d'elles, il les a utilisées en quelque sorte. C'est sans appel le bilan de tricheur de Laban. Il a changé aussi, on apprend, le salaire de Jacob. C'est un homme tricheur, un homme idolâtre. Dieu s'est révélé à Laban, il connaît l'histoire de Rebecca, comment Dieu était intervenu. Il a reconnu l'œuvre de Dieu dans la vie de Jacob. Dieu lui a parlé sur Jacob, il s'est adressé à lui. Et à la fin, il jure par le Dieu d'Abraham, mais malgré cela, il reste attaché à ses idoles, ses téraphins. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un téraphin aujourd'hui, une idole personnelle? Ben, c'est ce qui nous réconforte, ce vers où on se réfugie quand on a des difficultés, vers quoi on se tourne quand les problèmes sont là, quand l'angoisse est là. Qu'est-ce qui va nous donner la consolation? Ce que l'on caresse, ce que l'on bichonne. Voilà ce qui les téraphins, les fameux téraphins auxquels Laban était attaché. Les idoles du cœur cohabitent bien avec la religion, car elles sont personnelles, elles sont cachées, personne ne les voit. C'est aussi un homme matérialiste, hein. Laban, ça veut dire blanc, et Laban aimait bien les moutons blancs, les moutons Laban. Il aimait surtout l'argent. C'est un contre-exemple pour notre histoire. 4 portraits pour notre génération. C'était le titre du message. Comment ces hommes et ces femmes nous instruisent? On peut se poser la question à qui je ressemble. Ou alors, parmi tous ces personnages qui sont là, quand je l'ai vu, quel est le défaut qui m'a sauté aux yeux comme ça? Parce que bien souvent, on voit dans surtout les problèmes qu'on a chez soi, on les voit chez les autres. Vous connaissez la parabole de la paille et de la poutre. Les problèmes qui nous sautent aux yeux chez les autres sont souvent des problèmes que l'on porte avec soi. Et quel est le défaut qui me saute aux yeux dans tous ces problèmes qu'on a vus chez ces personnages? Quelles sont les qualités qui nous attirent aussi? Ça aussi, ce qui nous attire, ce qu'on trouve, ah, que j'aimerais être comme ça, ou ça me plaît, tout ça va nous permettre de mieux nous connaître et à partir de là, d'en tirer instruction pour notre vie, de ce que doit être changé dans notre vie et ce que Dieu doit transformer en nous. Mais il y a aussi des choses qui sont encourageantes et donc je ne vais pas faire plus long, je vous laisse avec cette histoire et ces personnages. La Bible les rend très vivants, proches de nous quelque part, même s'ils sont situés à 4000 ans en arrière presque. C'est le miracle de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'exemple de Léa en particulier. Merci pour également la façon dont tu as pris soin de Rachel. Merci pour Jacob, pour les progrès que tu lui as fait faire pour son cheminement spirituel. Et merci parce qu'on peut être encouragé nous aussi à travers tous nos problèmes qu'on a, nos péchés. Tu veilles sur nous pour nous faire avancer dans la foi. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.